Je vais parler de l'équipe de Jésus qu'on appelle les douze. J'ai commencé une série, les douze apôtres. Et ce matin, j'aimerais vous parler d'André. Est-ce qu'il y en a qui s'appellent André ici? Oui, il y a des André, OK. Alors, prenez pas ça personnel, hein? Je vais parler d'André ce matin. Et j'aimerais commencer avec une question. Qui vous a conduit au Seigneur? Ou qui vous a emmené dans l'Assemblée? Alors, on va voir ça dans quelques instants. André, donc, c'est le thème du message. André et l'évangélisation. Et nous allons regarder dans Jean 1, des versets 35 à 42, dans quelques instants. André est un disciple de Jean-Baptiste au début, mais il a immédiatement reconnu comme le Messie et plus tard a été choisi par Jésus pour être l'un des douze apôtres. André, comme vous savez, était le frère de Pierre, mais on connaît beaucoup mieux Pierre. On entend parler beaucoup de Pierre, son frère, et tous les deux étaient pêcheurs. André était présent lors de la dernière scène que nous venons de prendre ensemble ici aujourd'hui. Bien, André a participé, on pourrait dire, à la première scène avec le Seigneur, mais on l'appelle la dernière scène. Il a été témoin de l'ascension aussi, puis il a vu Jésus ressuscité. André a aidé à établir la foi. André a un nom grec qui veut dire « homme fort ». Alors, bravo les André qui sont ici ce matin. J'aimerais vous parler d'après un sondage. C'est vrai que c'est fait aux États-Unis, puis vous savez, ce qui arrive aux États-Unis, bien, ça peut nous aider, mais c'est quand même pas le Québec. Mais j'aimerais quand même, ça peut nous faire réfléchir. D'après un sondage par l'Institut American Church Growth de Pasadena, en Californie, il y a quelques années, parmi 14 000 chrétiens de toutes dénominations confondues, la question qu'on leur a posée est celle-ci: qui vous a conduit au Seigneur? Qui vous a conduit au Seigneur? Comment auriez-vous répondu à cette question-là? Moi, j'aurais répondu, ce n'est pas quelqu'un de l'Église, parce que l'Église a commencé dans la maison chez nous. Je ne savais pas ce que c'était une assemblée, mais les réunions ont commencé ici, dans la région, dans notre foyer. Mais je dirais que c'est en lisant, et c'est ça les faits, c'est en lisant les textes, et ça c'est une vraie photo, nous l'avons encore, ce Nouveau Testament, de version crampon, et ce sont des versets soulignés en rouge que mon père a soulignés dans le Nouveau Testament. Donc, c'est en lisant tout ce que mon père avait souligné en rouge dans la Bible, dans son Nouveau Testament, que j'ai compris le salut, que j'ai accepté le Seigneur comme mon sauveur. Puis l'école du dimanche se faisait le dimanche après-midi, chez nous, à la maison, avec Mademoiselle Kenyon, qui est la Dorothy Kenyon, qui est la fondatrice de l'Institut biblique Bethel. Mais à cette époque-là, elle venait des États-Unis, de Californie. Elle parlait bien français. Elle travaillait pour une association, Child Evangelism, je crois. Et puis, elle est venue évangéliser les enfants, mais en même temps, elle est venue chez nous faire l'école du dimanche. Et un peu plus tard, elle a établi l'Institut biblique Bethel. Et ça, c'est la maison à 650 rue Hertel où les réunions avaient lieu ici, dans la région. C'est comme ça que ça a commencé dans cette humble maison ici à Trois-Rivières. Donc, je me souviens encore des cantiques. Le premier cantique que j'ai appris, c'est dans les chants de victoire, le numéro 60, « Ô vous qui n'avez pas la paix ». Et aussi cet autre cantique, qui est le numéro 86, « Venez au Sauveur qui vous aime ». Comment êtes-vous venu au Seigneur? Cette question a été posée à des milliers de chrétiens. Avant que le sondage soit terminé, le nombre de personnes qui avaient répondu avait atteint au-delà de 30 000 réponses. Et la composition de l'auditoire, c'est assez intéressant. de voir la composition de l'auditoire. Les gens répondent à l'invitation d'assister des fois à des réunions ou à venir dans une maison entendre l'Évangile. Il y a toutes sortes de façons. Il y a mille et un chemins qui nous amènent à Jésus. Il y en a combien qui nous amènent à Dieu? Un seul, Jésus, qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». On dit que 2 à 3 % répondent à une invitation de venir entendre la parole par curiosité, seulement de 2 à 3 %. À cause d'un programme de l'Église, 2 à 3 % aussi. À cause du prédicateur, on aimerait que ce soit beaucoup plus que ça, mais du prédicateur, de 5 à 6 %. Si seulement c'était autour de 15-20, hein? Ça ferait plaisir, mais non. Et puis, à cause d'un intérêt particulier, 1 à 2 %. Par invitation, 1 à 2 % aussi. Annonce des réunions, des fois dans les journaux, des choses comme ça, 3 à 4 %. Bon, c'est mieux que rien. C'est quand même, il y a des réponses, mais c'est très minime. L'intérêt pour les grandes réunions, au forum ou à Place Belle à Montréal ou ailleurs, dans des grandes réunions, l'intérêt, 0,5% à 1%. J'étais surpris. Vous dites, ah, c'est, oui, mais c'est aux États-Unis. C'est peut-être encore moins que ça ici au Québec. Mais ça donne quand même une idée. Mais ce qui me surprend le plus, et c'est ça surtout que j'aimerais souligner, ceux qui sont invités par des parents, des amis, des frères, des sœurs, des cousins, ça tombe à 60, ça monte à 75 à 85 %.Des gens de votre famille, des gens proches. La grande majorité ont dit que c'était une invitation reçue d'une ou d'un ami, de mon voisin, mon cousin, mon collègue de travail, mon copain au golf. Et vous, comment êtes-vous venu au Seigneur? Je suis certain que chacun ici est venu d'une façon différente. Est-ce que vous êtes venu au Seigneur? Peut-être qu'il y a quelqu'un, je ne connais pas tout le monde ici ce matin, peut-être qu'il y a quelqu'un encore qui n'a pas l'assurance de son salut. Vous dites, je ne peux pas répondre encore à cette question-là. Peut-être que vous pouvez y répondre. Quelqu'un vous a invité à venir. Vous êtes ici ce matin. Les gens viennent au Seigneur généralement par l'entremise d'amis ou de relations familiales. Plus grande est la famille, plus grand est le cercle d'amis, des voisins, et plus grand le cercle d'associés, de relations de travail et intérêts communs sont des sentiers que la plupart des gens prennent ou suivent au moment de leur conversion. Alors, si on avait le temps, je vous raconterais des faits réels de grandes familles. Une assemblée, par exemple, ils étaient 4 dans l'assemblée. Et d'une semaine à l'autre, c'est devenu une assemblée de 40, 50, puis finalement 2 services le dimanche matin dans la même assemblée. Les gens du voisinage nous voient vivre. C'est important de vivre. J'aimerais suggérer quelques attitudes que je crois ont certaines personnes face à l'invitation qu'on leur donne de venir entendre l'Évangile. La porte est fermée, barrée à double tour. Il y a la personne rebelle à l'Évangile. Et je pense que je vous ai déjà parlé de mon patron ici. Je travaillais, moi, pour la St. Lawrence Corporation, qui est devenue la Dame Tar plus tard. J'ai prié 30 ans pour lui. Moi, je pensais que s'il y avait une personne en enfer, ce serait lui. Tellement qu'il était moqueur. Je ne vous dirai pas ce qu'il disait. Ça vous offenserait d'entendre ça en public. Mais j'ai prié quand même pour lui sans relâche, puis il s'est converti. Il distribuait des Bibles, il achetait des caisses de Bibles, pas des Nouveaux Testaments, des Bibles, des grosses Bibles. Et puis un jour, vous savez, il était très rebelle dans le temps que je travaillais là, que je témoignais au bureau. Et un jour, il m'a dit, on l'a invité chez nous après qu'il était converti, puis il était rempli de la joie du Seigneur. Et puis il est venu tenir le même cantique que moi ici à l'Assemblée. Un jour, c'était mon rêve de chanter avec lui puis de partager le même cantique, le même recueil. Il m'a dit, tu sais, Fernand, les gars avec qui tu travaillais, il dit, ils sont rebelles. Puis il dit même il me persécute. Ben j'ai dit j'espère. J'en avais tellement enduré de lui. Son bureau était juste à côté du mien. Quelle épreuve! Mais quelle joie de le voir venir au Seigneur. Ça fait 2 semaines, vous priez pour quelqu'un, vous êtes découragé, vous avez déjà cessé de prier peut-être? Non, continuez. Continuez à prier pour ces personnes-là. Il y a la porte aussi qui est entrouverte. La personne est confuse, mais non en conflit. Il y a l'indifférent. Il y a aussi la personne ouverte à l'Évangile, à l'Église. Il y a la porte qui est grande ouverte. Et j'ai remarqué qu'il n'y avait même pas de poignée là, qui a été enlevée, vous voyez ici. Là. Donc, la porte est grande ouverte. Et heureusement qu'il y a celui ou celle qui cherche sincèrement à écouter, à croire à la bonne nouvelle de l'Évangile. Que dois-je faire pour être sauvé? Est-ce qu'il y a une question plus merveilleuse que celle-là qu'on peut nous poser? Allez-vous me dire comment être sauvé un jour, m'a dit une grand-mère, on était une trentaine dans la maison. Et puis elle m'avait invité pour que je parle du Seigneur à sa famille. Elle-même n'avait pas encore l'assurance de son salut. Mais elle voulait que toute sa famille entende parler du Seigneur. Parce qu'elle avait hâte, moi je lui en avais partagé un petit peu. Puis quand on était réunis, j'ai commencé de cette façon-ci. J'ai dit, je vais demander à chaque personne, quel est votre moyen d'aller un jour au paradis. Est-ce que vous êtes certain d'aller au paradis? Dites-nous comment vous allez faire pour y entrer. Puis il y en avait qui disaient, je ne suis pas pire que les autres, j'ai oublié aux 10 commandements, je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, je suis sincère, je donne aux œuvres. Toutes sortes de moyens qui ne sont pas des moyens de salut, comme vous savez. Ce n'est pas par les œuvres. Afin que personne ne se glorifie. C'est un don de Dieu. Et puis, elle passait son temps à me dire, parce que je l'avais mis complètement, elle, à la fin, puis j'ai commencé avec les gens, puis à toutes les 2-3, elle me disait, « Allez-vous me dire comment est-ce que c'est qu'on peut être sauvé? » Ça me faisait plaisir d'entendre ça. Puis tous ces moyens-là qui étaient donnés. Et quand c'est arrivé à elle, elle a dit, « Allez-vous me dire comment est-ce que c'est qu'on peut être sauvé? » Et alors, très simplement, nous avons ouvert la parole, puis il y en a eu une quinzaine ce soir-là. C'était le début de l'Assemblée de Montmagny. Alors, prions pour cette Assemblée-là qui, au cours des années, a diminué beaucoup. Mais dernièrement, je suis allé, il y a toute une famille qui est entrée. Et comme je vous disais tantôt, des fois, il suffit d'une famille ou deux, et d'une semaine à l'autre, ça change. Donc, c'est une bonne question. Ici, Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Vous voulez qu'on parle d'André un petit peu? Bien, revenons à ça. Hein? Regardons dans le texte de Jean, c'est-à-dire l'Évangile de Jean, chapitre 1, les versets 35 à 37. Le lendemain, Jean était là avec 2 de ses disciples et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voilà l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles. Et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna. Puisque c'est écrit comme ça, j'imagine que Jésus s'est comme retourné tout à coup. Jésus se retourna. Et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, « Que cherchez-vous? » Ils lui répondirent, « Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? » « Venez, leur dit-il, et voyez. » Ils allèrent et ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. C'était environ la 10e heure. C'est ça? Et André, frère de Simon, était l'un des 2 qui avait entendu les paroles de Jésus et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et il lui dit, « Nous avons trouvé le Messie », ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit, « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Cephas », ce qui signifie Pierre. Dans les 3 évangiles, dans les 3 premiers évangiles, il n'est pas question d'André, sauf le fait que son nom est inclus dans la liste des 12. Selon notre texte ici, dans le quatrième évangile, l'évangile de Jean, André était un des premiers à suivre le Seigneur Jésus-Christ. Il était de la ville de Bethsaïda, on va faire un peu de géographie, sur la côte nord de la mer de Galilée. Puis d'après les traditions, André aurait porté l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ dans les régions qui sont devenues aujourd'hui, imaginez-vous, la Russie et la Grèce. André est mort martyr, il a été crucifié sur une croix en forme de X, qui est appelée la croix de Saint-André. Combien vous connaissez l'expression « une croix de Saint-André » ? Faites de la construction, vous autres, hein? Oui. La plupart connaissent cette expression-là. On parle de la croix de Saint-André, bien ça vient de cette tradition. André qui aurait été crucifié sur une croix en X. Et c'est un des symboles. Aussi, les deux poissons croisés, comme ça, c'est un des symboles qui a également été appliqué à André parce qu'il était un ancien pêcheur. Et il est aussi le patron des Écossais jusqu'à nos jours. Ses restes auraient été transportés en Écosse en l'an 300 après Jésus-Christ par un moine, toujours d'après les traditions. Ce n'est pas écrit dans la Bible, mais d'après certaines traductions qui sont quand même assez sûres. Si on ne connaît pas beaucoup de choses au sujet d'André, nous pouvons discerner qu'il possédait trois admirables qualités, des traits de caractère, des attributs honorables. André était prêt à apprendre et à changer aussi. Il était demeuré enseignable. Est-ce que vous êtes encore enseignable? Après des années d'appartenir au Seigneur, est-ce qu'on peut encore changer des choses, apprendre? C'est une qualité honorable de continuer à apprendre, d'apprendre d'un enfant qui connaît le Seigneur, d'apprendre d'une personne plus âgée, d'apprendre de quelqu'un peut-être qui n'est pas bien, bien instruit, mais qui s'est nourri de la parole, qui a vécu pour le Seigneur, d'apprendre, de continuer à être enseignable. André était en premier un disciple de Jean-Baptiste, mais lorsque Jean-Baptiste a vu venir Jésus vers lui, il a dit, « Voilà l'agneau qui ôte le péché du monde » dans Jean 1, 29. On peut dire que André a changé d'allégeance. Il n'a plus suivi Jean-Baptiste. Il a commencé à suivre Jésus. André s'est assis, pour ainsi dire, aux pieds d'un nouveau maître. De la même façon, vous aussi, moi aussi, nous devons toujours être prêts à apprendre et à effectuer tout changement nécessaire afin de se rapprocher de Jésus, afin de se rapprocher de l'agneau de Dieu. Et à partir de ce temps-là, de ce jour-là, André a toujours conduit d'autres personnes au Seigneur Jésus. Et trois fois, André apparaît comme figure centrale dans l'Évangile de Jean. Et chaque fois, nous le voyons amenant quelqu'un à Jésus. Dans le premier chapitre de Jean, André trouve son frère Simon-Pierre et l'amène au Seigneur. Au chapitre 6, versets 5 à 9, où une multitude de 500 hommes, sans parler des femmes et des enfants, sont affamés et ont besoin de manger, André amène un petit garçon à Jésus. Le garçon n'a que 5 pains et 2 poissons. Et avec ce peu de nourriture, Jésus accomplit un grand miracle et nourrit toute une multitude. C'est André qui avait introduit ce garçon et son petit lunch à Jésus. Finalement, au chapitre 12, durant la dernière semaine avant la crucifixion de Jésus, certains étrangers, des Grecs, peut-être des Grecs qui parlaient l'hébreu, désirent voir Jésus. Et encore une fois, c'est André qui les amène au Seigneur. Il était toujours content de partager sa foi, toujours prêt à amener quelqu'un au Seigneur. Quelqu'un a décrit André comme celui qui a été le premier missionnaire à ceux de son entourage, de sa famille, le premier missionnaire aux étrangers. Il a été le premier à amener son frère au Seigneur et le premier à amener des étrangers, les Grecs, au Seigneur. J'aimerais illustrer avec un personnage que plusieurs d'entre vous certainement vous connaissez, William Carey. Vous avez peut-être lu sa biographie. C'était un homme de petite stature. J'ai rien contre ça. Il était en plus cordonnier et il avait un grand désir de répandre l'Évangile, tout en ayant son commerce puis en réparant les souliers, les chaussures, les bottes. Il avait le désir de répandre l'Évangile dans d'autres pays et sur son mur de la cordonnerie, il y avait un map monde comme ça. Il priait chaque jour pour des pays. Il priait surtout pour l'Inde, en regardant le map monde sur le mur de sa cordonnerie, afin de pouvoir prier tous les jours pour toutes les nations du monde. Puis un jour, William Carey a assisté à une conférence de pasteurs, d'anciens. Il a témoigné de son fardeau pour les perdus, puis a maintenu que l'Église devait remplir la grande commission d'aller porter l'Évangile à toutes les nations. Entreprenez de grandes choses pour Dieu, leur disait-il. Attendez-vous à de grandes choses de Dieu. Puis un vieux pasteur qui l'a repris lui a dit, assieds-toi, jeune homme. Assieds-toi. Lorsque Dieu souhaitera convertir les païens, il va le faire sans ton aide ou le mien. C'est triste. Vous voyez, ça fait plus d'une centaine d'années et on retrouve peut-être encore aujourd'hui. Est-ce qu'on pourrait retrouver encore la même chose aujourd'hui? C'est triste, mais c'était l'attitude de bien des chrétiens à son époque. Mais heureusement qu'un jeune homme comme William Carey a écouté plutôt le Seigneur que les autres. Malgré les oppositions, les contraintes, malgré les découragements et les avis contraires, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écouté Dieu. Il a écouté cette voix intérieure de son esprit, de son cœur. Je vais aller évangéliser moi-même ces gens-là. Il a été vraiment béni. Il n'avait pas perdu son zèle, son enthousiasme pour amener les autres au Seigneur. Il est parti de l'Angleterre puis a commencé un travail de pionnier missionnaire en Inde. Puis là-bas, il a travaillé jusqu'à la fin de sa vie, 40 ans. Il a établi des églises, des écoles, des cliniques médicales, une réforme sociale. Carey a supervisé, rédigé des traductions des Saintes Écritures en 36 langues. Cordonnier qui traduit la Bible. Mais il a travaillé, il a dû apprendre, il a dû travailler fort quand même. Et aujourd'hui, William Carey est généralement vu comme le père des missionnaires modernes. Carey a eu un ministère semblable à celui d'André et le disciple qui conduisait les autres à Jésus. André était prêt à prendre le deuxième rang. Et ça, c'est merveilleux. Je vois ça partout dans les assemblées, dans les églises où je vais. Des gens qui, pour ainsi dire, moi j'appelle ça, ils jouent le deuxième violon. Ils sont en deuxième, ils prennent le deuxième rang. Ils sont dans l'ombre, souvent des autres. Mais ils font un travail extraordinaire pour Dieu. Eux, ils sont appelés de Dieu, vraiment. Ils ne veulent pas le premier rang, la première place. C'est important d'avoir la première place si c'est là que le Seigneur nous appelle. Mais ils sont prêts aussi à prendre la seconde place, qui est souvent dans l'ombre. Et c'est ce que je trouve beau d'André. C'est qu'il était prêt à prendre le deuxième rang. Vous vous imaginez ce que ça devait être? D'être à l'ombre de son frère Simon-Pierre. Hein? Simon-Pierre qu'on a fait finalement pape. Il était pas mal populaire, mais lui est resté dans l'ombre. Lui qui était toujours Pierre en vue, qui avait toute l'attention, Pierre qui a marché sur les eaux. C'est pas André qui a marché sur les eaux, c'est Pierre. Mettez-vous à la place d'André. C'est Pierre qui a prêché le jour de la Pentecôte. Jésus avait dit à Pierre, « Je vous ferai pêcheur d'hommes. » Son premier sermon, 3000 convertis. C'est pas beau ça? Mais ce n'est pas André, c'est Pierre, pas André qui verra ces 3000 personnes répondre au message de son sermon. Puis à chaque fois qu'il est question d'André dans les Écritures, presque sans exception, une exception en Jean 12, 22. Il est question de lui comme étant le frère de Pierre. C'est pas agaçant un peu ça? Exemple. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus dans Jean 1, 40. Un autre texte, un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons » dans Jean 6, 8 et 9. Tout le monde connaît bien Pierre, mais André, toujours le deuxième, est identifié dans notre texte par rapport à son frère, qui est toujours vu comme plus célèbre. André est toujours là, deuxième rang. André était un des premiers 2 disciples à suivre Jésus. Pourtant, il ne fait pas partie du noyau privilégié autour de Jésus, Pierre, Jean, Jacques. Hein? On a l'expression aujourd'hui, Pierre, Jean, Jacques, ça vient de ce temps-là. Pourquoi pas Pierre, Jean, Jacques et André? Non, c'est Pierre, Jean, Jacques. Le Seigneur vous a choisi pour une tâche bien spéciale. C'est peut-être celle d'André. Peut-être que d'autres sont Pierre, Jean, Jacques. Mais c'est Jésus, c'est Dieu qui appelle. Et c'est vous qui répondez. André était, par exemple, c'est Pierre et Jean, Jacques, qui ont été témoins de la transfiguration du Seigneur sur la Sainte Montagne. Ou à la résurrection de la fille de Jaïrus. Et témoin de la détresse de Jésus au jardin de Gethsémané. Ça aurait pu être facile pour André d'avoir du ressentiment. Il avait été disciple du Seigneur depuis les tout débuts. C'est lui qui a conduit son frère Pierre au Seigneur. Plusieurs à sa place auraient eu le cœur rempli de ressentiment et d'amertume, de toujours prendre la seconde place, mais pas André, parce qu'il savait que c'est Jésus, c'est Dieu qui l'a appelé. C'est Dieu qui le sert, c'est pas les hommes. Ça prend une sorte de personne spéciale de s'asseoir tranquille puis de jouer le deuxième violon. C'est la sorte de gars qu'était André. C'est un noble trait de caractère qu'il a. Et je demande au Seigneur d'avoir ce trait de caractère aussi, pas vous? Comme cet apôtre, ce disciple, cette équipe, cette personne dans l'équipe de Jésus. Est-ce qu'il y a d'importantes leçons pour nous? Une bonne nouvelle, c'est quelque chose que nous voulons à tout prix partager. Au début, André a passé une journée avec Jésus. J'imagine que ça a pu être toute une journée. André était tellement encouragé d'avoir été avec Jésus qu'il a sur le champ été le dire à d'autres de sa famille. André enfin trouve son frère puis dit « Nous avons trouvé le Messie ». Et puis, pour un Juif, là, d'avoir trouvé le Messie, c'était vraiment quelque chose. C'était quelque chose de merveilleux à entendre. L'évangélisation a commencé dans la maison. André n'a pas commencé à témoigner en frappant aux portes, en prêchant en public dans un parc, au coin d'une rue, ou dans un pays lointain, mais chez lui, il a commencé à parler, à témoigner. La plupart des gens viennent au Seigneur parce qu'un ami, un parent, les aimait assez pour partager leur foi. Quelqu'un qui vous connaît, qui vous a vu vivre. Et pour conduire quelqu'un au Seigneur, il ne s'agit pas de prêcher un grand sermon. Il n'est pas dit dans le Nouveau Testament qu'André a prêché des sermons, ou un sermon, autant qu'on sache. Il n'a jamais assisté à l'école biblique. Je n'ai rien contre les écoles bibliques, je l'ai fait, l'école biblique, mais le Seigneur a une préparation pour chacun. Aujourd'hui, dans l'Église, nous avons besoin de plus d'André, tout débute par une invitation. Venez voir ce que nous avons trouvé. Mais vous, comme moi, vous avez témoigné puis prié pour le salut de quelqu'un puis rien ne s'est passé. C'est triste. Ça peut être décourageant, mais il faut continuer à semer. Ce n'est pas vous qui sauvez. Vous semez. Il y a quelqu'un d'autre qui va arroser. C'est le Seigneur qui fait croître. Il faut avoir premièrement... Nous lisons, par exemple, ici un verset que je devrais mentionner, c'est d'avoir de la conviction. Un étudiant de l'université qui... ça, c'est un verset que je devrais lire, « Car l'Esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. Au contraire, Son Esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse, dans 2 Timothée 1:7. Il faut avoir de la motivation, de la conviction, et puis de la compassion. Je vais vous dire qu'il y a un étudiant de l'université du nom de Cameron, 19 ans. Vous avez dû voir ça à la télévision, dans les nouvelles. Il attendait un train dans une station souterraine de New York. Et tout à coup, Cameron a eu une crise, puis est tombé entre les rails d'une des voies d'un train qui approchait à grande vitesse.
Aux États-Unis, toujours, on ne parle que de lui cette semaine. Wesley Autrey est un héros, comme l'Amérique les aime. Un ouvrier du bâtiment qui a sauvé au péril de sa vie un jeune homme tombé sur les rails du métro new-yorkais en le poussant entre les deux voies quelques secondes de l'entrée en gare d'une rame. Alain Chalvran.
C'est la dernière coqueluche de New York, assaillie par les reporters et honorée par le maire, en présence des deux petites filles de l'intéressé.
Vous savez sans doute que votre père est un héros. Il représente tous les New-Yorkais.
Mardi dernier, Wesley Autrey est donc avec ses filles dans cette station du métro de New York. Et soudain,
j'ai vu un homme tituber, s'appuyer sur la colonne, et puis tomber comme ça à la renverse. Et là, j'ai vu une rame arriver. Elle était tellement près, et je me suis dit, qu'est-ce que je fais ?
En un clin d'œil, Wesley saute sur la voie, se saisit du jeune homme qui est en travers des rails, promis à une mort certaine, et le place entre les rails, couvert par lui, tandis que le train leur passe dessus à moins de 5 cm.
La seule chose qui me soit venue à l'esprit lorsque le premier wagon nous est passé dessus, l'empêcher de bouger.
L'espace entre les rails n'est pas bien large. Il ne s'en est pas fallu de beaucoup. Cette trace noire sur le bonnet de Wesley, c'est la trace laissée par le train. Le jeune homme, victime du malaise, Cameron Holocopter, 20 ans, est toujours à l'hôpital, mais hors de danger.
Il n'y a pas de mots pour exprimer notre gratitude pour l'action de Wesley.
Depuis mardi, Wesley vit et revit son exploit sur toutes les chaînes de télévision sans se faire prier.
Lorsqu'on lui a demandé d'où venait son courage puis pourquoi il avait agi de la sorte, il a répondu modestement: je l'ai juste fait parce que j'ai vu quelqu'un dans la détresse, quelqu'un avait besoin d'aide. C'est ça la compassion, l'illustration qui nous démontre un tout petit peu ce que nous devrions avoir envers ceux qui sont perdus, qui s'en vont vers un châtiment éternel, séparés de Dieu pour l'éternité, d'avoir de la compassion. La raison pour laquelle le chrétien témoigne sa foi ou ne témoigne pas du tout, est relié à sa compassion. Avez-vous de la compassion pour ceux de vos familles, de votre famille? Ma compassion pour mon collègue, mon voisin, mon ami. Est-ce que je crois vraiment qu'il est perdu, qu'il a besoin du Seigneur dans sa vie? Est-ce que j'ai une tristesse dans mon cœur de savoir qu'il n'a pas Jésus comme sauveur et Seigneur de sa vie? Je peux être la seule personne qui peut l'aider. Il n'y a personne d'autre. La compassion, comme la conviction, sont directement lié à notre témoignage ou à notre manque de témoignage. Il faut avoir aussi être appelé par cette grande commission. Il y a la commission comme motivation. Jésus a dit: allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est un message qui s'adresse à tous les chrétiens, pas seulement aux évangélistes, aux pasteurs, aux ouvriers. Une autre raison pour laquelle on ne témoigne pas quelquefois, c'est qu'on se dit, plusieurs disent, c'est pas mon boulot, il y a des gens qui font ça. Il y a un employé du département de transport qui a peint une ligne au milieu de la route, au central de la route, et je me demande ce que l'employé dirait si on lui demandait pourquoi il n'a pas enlevé l'animal mort, le musqué là, sur la route, avant de peindre la ligne centrale. Je présume que sa réponse aurait été: c'est pas mon boulot. Mon travail, c'est de peindre la ligne centrale, un point, c'est tout. Je ne suis pas là pour enlever les animaux morts de la route. Et de même, je suppose que beaucoup de chrétiens, et ça peut m'arriver des fois aussi, n'invitent pas leurs amis, leurs parents, leurs collègues de travail ou voisins à entendre l'Évangile parce qu'ils ne le perçoivent pas comme étant leur travail. Ce n'est pas mon travail. En conclusion, rappelez-vous, la plupart des personnes sont sauvées en rapport d'un ami, d'un parent qui leur a témoigné. Il y a un enchaînement d'influences. Dieu veut vous employer, m'employer, pour amener certaines personnes. Là où je ne peux pas aller, vous y allez. Là où je vais, vous ne pouvez pas y aller. Vous faites une équipe avec Dieu, je fais équipe avec Dieu. N'oublions pas que notre bonne volonté, notre ardeur de témoigner sont directement liées à notre conviction, à notre compassion et puis à la commission du Seigneur, à l'effet de toutes les nations des disciples. De la même façon, notre réticence, notre hésitation à témoigner est directement liée à notre manque de conviction, de compassion et de commission. Que Dieu puisse nous donner à chacun un plus grand degré de conviction, de compassion, de commission. Amen. Amen. On m'a donné 5 minutes de plus parce que vous m'avez enlevé 5 minutes par les chants qui étaient merveilleux. J'ai aimé chaque chant ce matin. Je louais le Seigneur avec vous, même si je ne connaissais pas les paroles. Je les entendais pour la première fois. Alors, si vous me permettez, je prends un autre 5 minutes. Êtes-vous d'accord? Juste pour donner un très bref rapport, on m'a demandé de donner quelques choses sur le ministère que nous exerçons. Vous avez en arrière ici, il y a quelques lettres que j'ai apportées comme ça. Il y a la lettre de la foi vivifiante, l'émission de radio, qui est dans sa... ça a fait 50 ans le 20 octobre dernier qu'on était à la radio, sans manquer une seule semaine. Ça veut dire 2600 émissions. Quand j'ai commencé, on m'a dit « Prépare 4 émissions ». J'ai dit « Que je veux dire? » La cinquième. On en a dit en 2600. Et ici, c'est notre lettre. Il y en a en arrière aussi quelques-unes qui expliquent un peu notre ministère. Mais ce que j'aimerais souligner surtout, c'est que nous louons le Seigneur du fait qu'on peut annoncer et enseigner la parole. Aujourd'hui, j'ai un ministère itinérant, c'est-à-dire que ça m'amène un ministère ambulant. Je vais dans plusieurs assemblées apporter la parole. Je produis aussi des émissions de radio qui s'appellent « La foi vivifiante ». Et nous enregistrons un message de réconfort. Si vous avez un téléphone et que vous voulez composer maintenant, vous allez entendre un message enregistré à ce numéro-là. Depuis 1978, jour après jour, ça change une fois par semaine. Et il y a aussi des émissions de télévision, quelques 325 à 350 émissions d'archivées que vous pouvez regarder. Et les prédications aussi que j'apporte une fois par mois à l'Église sont mises sur film et sont sur Internet. Vous pouvez les voir. Dans Google, vous tapez Fernand Saint-Louis ou cette adresse-là pour avoir... ici, c'était tous les jours que ça change. C'est en direct à 5:00. Si vous allez à 5:00 ici à cette adresse, je vais vous parler en direct. Je fais la bonne semence, la lecture. Et je vous en ai apporté un extrait. Je ne sais pas si on va l'entendre. Peut-être pas. Peut-être ici, oui. Alors, je suis assis dans mon bureau.
Bonjour. Quel mystère que ce regard du Dieu vivant. Son regard embrasse tout, pénètre tout, l'immensité de l'univers, comme aussi les parties les plus secrètes de notre esprit. Dieu voit le mal et le juge, mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. En 1 Jean 1:9. Plus nous apprendrons à connaître Dieu, plus aussi nous désirerons vivre sous son regard par la foi. Et je vous dis au revoir et au plaisir de se retrouver bientôt ici.
Au revoir et à bientôt. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen.